commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour. Des livres, oui, mais quels livres ? Eh bien, l'Oiseau des livres est là pour vous aider à choisir, vous présenter des coups de cœur. Aujourd'hui, on va vous parler de livres pour les enfants autour de 10 ans. Je dis autour de 10 ans parce que des bons lecteurs peuvent les lire avant. Et puis, ces romans sont suffisamment forts pour qu'on les aime longtemps. Donc, je vais d'abord vous présenter Adam et Thomas de Aaron Appenfeld sur une traduction de Valérie Zenati. Dans ce roman, c'est une Robinsonade, un petit peu. Adam est conduit par sa maman dans la forêt. Elle lui promet de revenir le chercher le soir et elle ne revient pas. Adam est très débrouillard, il a l'habitude de la nature, il sait comment se comporter et comment survivre en forêt. Et arrive un autre petit garçon, Thomas, qui est un petit copain de classe que sa maman amène aussi dans la forêt, qui lui est plutôt un télo, il prend des notes, il réfléchit beaucoup, mais se débrouiller seul dans la forêt, c'est pas vraiment son truc. Ils vont mettre ensemble leurs possibilités de survivre, l'un va réfléchir, l'autre va leur apprendre à se nourrir, construire un nid dans les arbres, cueillir des baies, et puis le temps passe, les mamans ne reviennent pas. Par contre, il y a leur chien qui revient, qui va leur tenir compagnie, leur tenir chaud, parce que l'hiver arrive et survivre en hiver dans la forêt, c'est pas gagné. Heureusement, il y a une petite fille qu'ils vont juste apercevoir, mais qui leur donnera à manger, leur cachera un petit peu de nourriture dans la forêt. Et ce roman se passe au moment de la guerre. La guerre est sous-entendue. Il y a des bruits, des gens qui fuient, des coups de feu. Tout cela, les enfants le vivent, mais sans traumatisme, parce que finalement, ils sont complètement dans leur survie. Et c'est un roman qui se termine bien, alors qu'à cette époque, les mamans ne revenaient pas. Un très, très beau roman.
Pour ma part, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus contemporain pour les enfants. Donc c'est Le Stylo de Franck Andria aux éditions Mijade. Donc Le Stylo, c'est un roman en huis clos dans une salle de classe où un stylo a disparu. Et donc il va y avoir une enquête qui se déroule le temps d'une heure de cours. On a différents narrateurs qui s'alternent dans le roman. On a d'abord la jeune fille à qui on a volé un stylo, qui va en fait très vite regretter d'avoir cherché à retrouver son bien. Le prof de maths, bien sadique, comme je suis sûre qu'il n'en existe probablement pas, qui se fait vraiment un malin plaisir à mener l'enquête avec toutes les ristournes et les mimiques du commissaire bien opiniâtre. C'est-à-dire qu'il va faire preuve de la psychologie, il va leur lancer des regards assassins, les acculer, vraiment de la torture psychologique pour réussir à trouver qui est le voleur. Et justement, on va aussi avoir le voleur qui va parler tout en restant anonyme tout le long du roman. Il va tirer les ficelles. On sent que c'est l'élève qui manipule ses camarades dans l'ombre et c'est lui qui a volé le stylo. Et on ne saura qu'à la fin. C'est un court roman qui fait vraiment apparaître toutes les violences entre les élèves, les conflits de personnalité. Et c'est un roman très haletant.
Mandela et Nelson. On va beaucoup parler de foot, je crois. Je ne suis pas fan, hein, mais j'ai vaguement entendu qu'on allait parler de foot. Et ce roman sur le foot, moi qui n'aime pas le foot, m'a complètement séduit. Parce qu'on n'est pas dans le problème des équipes telles qu'on en parle en ce moment. Mandela et Nelson sont deux enfants qui sont nés le jour où Nelson Mandela a été élu président de la République en Afrique du Sud. Donc, d'où leur nom. Mandela est une petite fille, Nelson un petit garçon. Et ils sont des joueurs de foot émérites. Et pour la première fois, ils vont recevoir une équipe européenne, une équipe allemande, une équipe avec des maillots, avec un vrai ballon, une véritable équipe de foot. Or, eux, en Afrique, ils n'ont aucune possibilité d'avoir ce genre de choses. Le terrain de foot, il faut le dessiner la veille comme ils peuvent. Et il y a le troupeau qui passe au milieu la nuit. Les buts, il va falloir les fabriquer. Les répétitions, c'est pas simple parce que certains enfants travaillent, ils aident leurs parents. Comment réunir tout le monde pour que le match se passe bien? Heureusement, Mandela est pleine de ressources. Non seulement c'est une joueuse hors pair, mais en plus elle a plein d'idées pour réussir à ce que l'équipe soit une véritable équipe face à cette équipe d'Allemagne qui va arriver et qui va être époustouflée par la qualité de jeu et les moyens mis en œuvre pour que cette rencontre ressemble à une vraie rencontre de foot. Le second vient d'arriver, le match retour, donc deux romans à lire quand on aime le foot et quand on a envie que ça se passe un peu différemment.
Décidément, moi j'ai décidé de faire à chaque fois tout le contraire d'Annie pour mes romans, on s'est bien mis d'accord. Puisque donc celui d'Annie se passait en Afrique avec plein de gamins, et moi ça se passe à Paris et c'est plutôt l'histoire d'un enfant solitaire. Il s'agit de « Ça déménage au 6B » de Muriel Zurcher aux éditions Thierry Magnier. Donc c'est l'histoire de Grégoire qui élève, attention, des serpents et des mygales dans la cave de son immeuble. Bon, il fait ça, j'ai dit, en solitaire, c'est-à-dire dans le dos de son père, qui est un père qui est parti de rien et qui a réussi et qui du coup place beaucoup trop d'espoir dans son fils. D'une mère bourgeoise complètement absente qui a tout un tas d'activités qui lui prennent énormément de temps. Et d'une grande sœur un peu trop parfaite qui fait de brillantes études d'avocate. Et voilà, au milieu de cette famille, il y a Grégoire qui en secret élève des nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Mais le jour où la police découvre que les voisins du premier cultivent, eux, du cannabis dans la cave d'à côté. Normal. Les flics coupent l'électricité. Ouais, mais voilà, sans électricité, les vivariums ne sont plus à la chaleur adéquate et c'est la mort assurée pour toutes les petites bébêtes de Grégoire et notamment pour cette toute jeune portée de mygale dont il est extrêmement fier. Donc voilà. Grégoire est obligé de déménager tout cet terrarium avec l'aide inattendue de son vieux voisin, Monsieur Machilowski, qui finalement apprécie voilà ce chambardement qui va un petit peu égayer sa triste vie. Et Grégoire va se rendre compte que les personnes en qui il ne pensait pas pouvoir faire confiance vont finalement s'avérer des amis très sincères. Et c'est un roman qui montre qu'on peut trouver sa voie dans différentes choses et que c'est pas forcément en faisant des études bac plus 5 de médecine ou en droit.
Et bien maintenant, c'est un roman de Gisèle Bienne, un auteur que j'aime beaucoup, Le pays où quelqu'un nous attend. Ce roman nous plonge dans une ferme au départ, une ferme qui s'appelle la Sibérie, où Fanny et Quentin passent l'été. Ils sont chez des amis de leur père parce que leur maman est malade et doit être opérée du cœur. Ils doivent attendre là qu'elle retrouve la santé. Au début, ils sont pleins de bonne volonté, donnent volontiers un coup de main, aident à faire tous les travaux de la ferme avec beaucoup d'entrain. Et il se révèle tellement efficace que les fermiers leur demandent, Gilles et Jeanne leur demandent en permanence de bosser du matin au soir. Et là, ils commencent à trouver que finalement, ce séjour n'est pas celui dont ils rêvaient. Et le seul moment qui est pour Quentin un moment de rêve, il trouve dans la grange un vieux tracteur sur lequel il passe son temps libre, un tracteur qui est là, qui a été le premier tracteur de la ferme et qui est encore en état. Et lorsque Gilles et Jeanne décident de s'offrir un petit week-end prolongé en amoureux, en leur abandonnant la ferme, là, ils trouvent que, ben, ils poussent le bouchon un peu loin et ils décident, la veille de la, du retour de Gilles et Jeanne, pour ne pas laisser les animaux de la ferme, ils sont consciencieux, ils décident de partir en tracteur. Partir en tracteur, bien sûr, pas sur les routes, par les chemins, pour aller retrouver le parrain de Quentin, qui n'est pas excessivement loin, mais en tracteur, c'est quand même pas la porte à côté. Et puis, ce parrain habite dans ce qu'ils appellent les Ardennes, le pays de leur maman, où leur maman a passé son enfance. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil à ce qu'elle est en train de vivre. Mais les chemins, la pluie font que le tracteur s'embourbe et qu'ils doivent trouver refuge chez un homme extraordinaire que l'on prénomme Geronimo, qui est celui, un homme qui a résisté jusqu'au bout lorsque son village a été envahi par l'eau pour la construction d'un barrage. Il va les accueillir, il va les remettre sur la route. Et finalement, ils finiront par arriver chez le parrain. Le parrain qui a des relations assez égoïstes avec son filleul, c'est-à-dire qu'il est content de le voir, de passer de bons moments avec lui, mais il ne faut pas non plus que ça lui prenne trop de temps. Donc au bout d'un moment, Fanny, va laisser son frère avec son parrain et retourner voir Geronimo. Et là, elle va passer un moment assez extraordinaire. Cet homme va lui montrer la nature, va lui expliquer ce qu'il a vécu, lui montrer comment on aperçoit sa maison au fond du lac. Et tout se terminera bien entendu. Ils finiront par prendre contact avec ces fermiers indélicats. Il y a un moment où on se dit, mais nom d'un chien, ces adultes sont assez irresponsables, personne n'est prévenu que ces enfants sont par les routes, mais Geronimo a été très réaliste et a aplani tout pour que cela se passe bien. Un joli roman où parfois on se dit que les enfants sont presque plus réalistes et intelligents que les adultes qui les entourent.
Alors, pour moi, ce sera Martin Gaffer Tout-Terrain, de Sarah Turoche-Dromery, aux éditions, encore une fois, Thierry Magnier. Un roman très drôle, Martin Gaffer Tout-Terrain. Tout est un peu dans le titre. Donc Sam et son grand frère Martin ont une mission assez simple à exécuter. Ils doivent prendre l'avion de Paris jusqu'à Rome pour rejoindre leurs parents à un mariage. Bon, c'est quand même une mission qui demande à être un petit peu dégourdi quand même, mais leur mère a tout orchestré aux petits oignons. Tout devrait bien se passer, mais ça, c'est sans compter sur Martin. Martin qui est le roi de la gaffe, avec qui rien ne se passe jamais comme prévu. Et ce voyage à Rome va finalement être une catastrophe. Puisque, pour vous donner quelques exemples, ils vont d'abord se planter d'aéroport, puis se planter de jour de départ. Ils vont quand même réussir à arriver à Rome, mais sans leurs bagages, qui partent à Honolulu. Et ça, ce n'est que les 10 premières pages du roman, qui en fait petite cinquantaine, je dirais. C'est vraiment un roman hilarant sur un petit frère qui est complètement dépassé par les frasques du grand. À découvrir.
Et pour terminer, L'ogre au pullover vert moutarde de Marion Brunet. Un roman drôle, un roman comme on en a peu de nos par nos auteurs français. C'est-à-dire qu'à la fois, il est drôle et sérieux. Abdou et Johan vivent dans un foyer pour enfants. Les enfants dont personne ne veut, les enfants qui ont des parents pas terribles, les enfants, voilà. Et ils ont un horrible directeur. Un directeur vraiment dont ils ont envie de se débarrasser. Heureusement, ces deux copains ont plein de ressources. Quand arrive un nouveau gardien, à chaque fois, ils le mettent à l'épreuve. Mais là, le nouveau gardien a tout d'un ogre. Et effectivement, c'est un ogre. Un ogre qui vient là parce que finalement, il a trouvé que pour se nourrir, le mieux, c'était de débarrasser notre société de ceux dont on s'occupait peu. Et cet ogre est malheureux en plus. Il est malheureux parce qu'il est différent. Il a un petit nez. Chez les ogres, avoir un petit nez, ça ne se fait pas. Donc c'est un ogre malheureux mais affamé. Et on va terminer, tant pis, on aura une minute de retard. Un tout petit extrait. Le goût des bonnes choses. L'avenir, hein, a fait Johan. C'est l'avenir qui donne un si joli goût à la chair des enfants. Ça pétille sur la langue. Vous voyez, comme une glace à la fraise pour vous. A fait tous les deux par réflexe. L'ogre a claqué sa langue sur son palais d'un air gourmet. Je ne vous le fais pas dire. Toutes les saveurs ne se valent pas entre un vieux au goût d'endive et un enfant qui pourrait être tellement de choses. Futé, bout en train, amoureux, mélancolique, léger, timide, profond, orgueilleux, avare, généreux et qui pourrait devenir tout ce qu'il veut. Il a pris les rêveurs d'un coup. Un sourire béat sur sa grosse face cramoisie et s'est mis à énumérer. Avocat, jardinier, poète, libraire, maçon, navigateur, dresseur de panda, pilote de fusée, boxeur, a braillé Johan, des étoiles plein les yeux, réalisateur, j'ai ululé en sautillant, exactement, a renchéri l'ogre, tout content qu'on le comprenne. Vous n'imaginez pas le festival de saveurs qu'on a en bouche. Et c'est pour ça que je suis ici. Et si vous voulez savoir s'ils se font croquer, il ne vous reste plus qu'à le lire.
Voilà, l'oiseau des lyres, c'est fini pour aujourd'hui. Ça vous a été présenté par Annie et Charlotte. Et on se retrouve dans 15 jours à la même heure.
Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si peu.